Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Trop, c'est trop, et pour être plus précis, je ne supporte plus les vérités alternatives, on pourrait dire les réels alternatifs, et comme a dit l'ami Édouard Jouan dans sa chronique du 13 octobre dernier, il faut appeler un chat, et le réel, le réel. Bon, il reste à définir exactement ce qu'est le réel. La meilleure définition, de mon point de vue, est celle du psychanalyste Jacques Lacan, quand il déclare « le réel, c'est quand on se cogne ». Et oui, le réel ne peut être interprété, il échappe aux élucubrations, aux interprétations et aux croyances. Ainsi, quand on marche pieds nus sur un jouet en plastique dur qu'a laissé traîner votre gamin, ça fait mal et on crie plus ou moins fort et dans la langue qu'on veut, parce que, en l'occurrence, on est confronté à une vérité qui n'a rien d'alternative. Par les temps qui courent, et qui ne vont pas tarder à me rattraper, ces vérités alternatives ou parallèles font floresse, et les exemples sont nombreux. Allez, au hasard. Récemment, une jeune Algérienne, semble-t-il dans un état de délire psychotique et en situation administrative irrégulière, aurait trucidé une gamine de 12 ans. J'emploie le conditionnel. C'est absolument insupportable et nous avons besoin d'une explication rationnelle pour supporter cet insupportable. Sauf pour les parents qui, eux, ne demandent que le silence respectueux de leur immense douleur. Mais pour nous, nous autres les braves gens, il faut une explication au coup de folie de cette jeune femme. Sa nationalité peut-être, mais il existe des criminels de toute nationalité. Son âge. Oh, la cruauté n'attend pas le nombre des années. Ah, peut-être que le fait qu'elle soit une femme pourrait inquiéter parce qu'elle nous rappellerait, dans ce cas, la sorcière de Blanche-Neige. Mais dans les contes d'enfants, il y a aussi des ogres et dans la réalité, il y a des Émile Louis. On pourrait accuser les psychiatres qui ne l'ont pas repéré, mais que je sache, ils n'ont pas été consultés. Alors, que n'accuse-t-on pas la maman de cette jeune dame de l'avoir mise au monde ? Une bonne IVG il y a une vingtaine d'années et hop, plus de crimes abominables. Il nous reste les autorités françaises qui n'ont pas expulsé plus tôt notre Algérienne délirante. On y est. C'est la faute à tous ces fonctionnaires de la police et de la justice qui n'ont pas fait leur boulot. Ouf, il était temps de trouver des coupables et des explications pour supporter l'insupportable et, par la même occasion, de trouver le remède définitif aux troubles psychotiques majeurs chez les étrangers en situation irrégulière. Et ce remède, c'est l'application immédiate, stricte et sans recours des obligations de quitter le territoire français, les OQTF, CQFD. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 4 novembre 2022 et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous commencerons le spectacle avec la chronique d'Édouard Jouan, restituée par Marie-Sophie Friot. Cette chronique sera suivie d'une nouvelle écrite par Jean-François Rechner, nouvelle que nous restituera Isabelle Maillard. Cette chronique ne respectera pas les règles des moins de 5 minutes. Elle fera donc exception, ce qui confirmera la règle. C'était d'ailleurs le thème de l'émission du 17 juin 2022 à vos cassettes. Nous commencerons donc ce Culture 5 avec la chronique d'Édouard Jouan intitulée « Vague alarme ». Marie-Sophie, c'est à vous.
C'est dans un climat tempétueux que s'achève 2022. nous sommes prévenus. Face à une énorme dépression, notre paquebot France va devoir affronter d'énormes creux sous des rafales de plus en plus fortes. Ce n'est pas le moment d'être sujet au mal de mer. Les vagues successives qui déferlent sur nos côtes rendent difficile la vie de tous les citoyens qui n'ont pas le pied marin et les bourses pleines. Déjà, il y a quelque temps, nombre d'entre eux, ayant revêtu leur gilet jaune de sauvetage, s'étaient mobilisés contre le capitaine, coupable, à leurs yeux, d'être incapable de mener le navire à bon port. Et puis, une gigantesque vague pandémique qualifiée de Covid-19 était venue mettre un terme à cette vague de mécontentement et sous des creux de plusieurs mètres avait mis à mal la santé des passagers, contraints de rester plusieurs mois confinés dans leur cabine. Cette houle, à peine calmée, une nouvelle vague de contestation avait gagné le pont supérieur, réclamant le départ de ce capitaine jugé incompétent. D'après eux, surtout à tribord, il aurait fallu, dans l'urgence, revoir la gouvernance du bâtiment et jeter par-dessus bord ces milliers d'immigrants qui l'alourdissaient de façon inquiétante. Côté bâbord, c'était plutôt une vague d'indignation face aux conditions de travail du personnel, en particulier des mécanos de la salle des machines. Tout le monde s'attendait à une destitution du maître à bord. Que nenni ! Les prétendants englués dans leurs ambitions personnelles et leurs luttes intestines échouèrent et disparurent des écrans radars. L'occasion, pour la vigie du gaillard d'avant, d'être enfin entendue. Depuis des mois, par des gestes et des cris, elle signalait qu'à l'Est, il y avait du nouveau. Des pirates moscovites s'étaient attaqués au navire amiral ukrainien ravitailleur et l'horizon se plombait de lourds nuages inquiétants qui faisaient craindre des jours difficiles. Pénurie en cascade, restrictions en tout genre étaient affichées au menu par un Bosco de la Pro aux abois. Combien de temps allait-on dans ces conditions pouvoir tenir? Les flammes des bougies oscillaient au gré des coups de vent et dans les coursives, les corps et le moral chancelaient. Manquait plus qu'un iceberg pour faire couler le géant dont la croisière virait au cauchemar. De la poupe à la proue, comme sur le Titanic, montait un autre vent, celui de la panique. The pale moon rose in its glory out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April. Over the way she rode, sailing into tomorrow, to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows, the promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above. The orchestra was playing the songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. Sketchbook, he was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom
and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard a loud commotion, something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarterdeck, no time now to sleep. Water on the quarterdeck, already 3 foot deep. Smokestack was leaning sideways, heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under, the universe had opened wide. The roll was called up yonder, the angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded, propellers they failed to start. The boilers overloaded, the ship's bow split apart. Passengers were flying backward, forward, fine, fast. They mumbled, fumbled, and tumbled, each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of 12 and 1. No change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees.
Merci à Marie-Sophie et Edouard pour cette vague alarme. C'est la voix de Bob Dylan qui illustre votre propos. Une voix qui résiste encore et toujours contre les éléments. Cette voix nous raconte l'histoire du Titanic, non pas telle qu'elle a été réellement, mais telle que Bob Dylan l'a vécue lui-même à deux doigts de sombrer. Allez, on s'écoute encore un peu de Tempest avant d'entendre Isabelle Maillard nous conter l'histoire de Josette, une autre forme de naufrage.
How long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time.
Cette chanson dure 14 minutes. C'est court pour un naufrage, mais un peu long pour Culture 5. Et le prix Nobel de littérature 2016 ne nous en voudra pas de ne pas la diffuser en entier. Par contre, la nouvelle, écrite par Jean-François Rechner, mérite d'être lue in extenso par Isabelle Maillard.
Josette. Je m'appelle Josette. Josette Huffen. Mon nom s'écrit avec un umlaut, car mon père était allemand. Je dis « était », car je suppose qu'il est mort. Je ne l'ai jamais connu. Il n'a jamais donné de ses nouvelles. Je suis née le 31 décembre 1943. Maman, petite Française insouciante, a vécu le parfait amour jusqu'au départ de mon père pour le front de l'Est, peu après ma naissance. À la Libération, elle a été tondue par de zélés patriotes, dont un certain Marcel Petiot, lieutenant autoproclamé de la FFI, résistant de la 25e heure. Il s'est illustré surtout par ses crimes. Maman m'a raconté tout ça. Les soirs de déprime, elle buvait un peu. Ses confidences étaient douces et mélancoliques. J'ai conclu de la triste histoire de maman que les hommes les plus intransigeants sont souvent ceux qui ont le plus de méfaits à cacher. Petite fille, j'ai été la tête de turc de mes condisciples, qui me surnommaient l'Acheleu, la Boche ou la Fridoline. Mes maîtresses d'école aussi, à chaque occasion, me reprochaient l'amour de mes parents. Par contre, certaines de mes voisines de classe, dont le père avait fait fortune entre 1939 et 1944, étaient tranquilles. Je n'ai jamais cherché à savoir ce que mes copines d'école sont devenues. Malgré les brimades de toutes sortes, j'ai eu mes deux bacs. Ma mère était très fière de moi. C'était en 1962. Ça ne l'a pas empêchée de mourir en 1964. Elle ne s'était jamais remise de son chagrin. Institutrice, elle avait été renvoyée de l'éducation nationale. Une fonctionnaire vivant avec un homme, on disait à la colle, avait toutes les chances d'être fichue dehors. En plus, avec un occupant, de surcroît fille-mère, elle a survécu de petits boulots tant qu'elle a pu. Et puis, elle me laissait seule. La famille ne nous a jamais pardonné la nationalité de mon père et n'a jamais cherché à nouer le moindre lien avec moi. J'ai cessé mes études et je suis entrée à la poste. À l'époque, on disait les PTT, poste, télégraphe, téléphone. Je m'y sentais bien, je distribuais le courrier et les allocations familiales. On disait les allocs. Je me sentais utile pour la première fois de ma vie. Les gens m'attendaient, m'ouvraient leurs portes en souriant. Les collègues étaient chaleureux. J'ai été mutée boulevard Brune à Paris. J'ai pu obtenir un petit appartement assez facilement près de la porte de Vanves. Un quartier agréable, 14e arrondissement. Avec un marché aux puces tout près, j'aimais bien chiner, retrouver des bricoles anciennes abandonnées par leurs propriétaires et sauvées de l'oubli par les biffins. C'est là que j'ai connu Noureddine. Kabyle, un magnifique regard bleu triste. Il avait dû quitter l'Algérie en catastrophe. On l'appelait le Harki. Je n'ai jamais su la signification de ce mot. Il ignorait si sa famille avait survécu, perdu le contact. Quand il me parlait de son pays, sa nostalgie était si poignante que je l'en aimais encore plus fort. Il avait une voix grave et pénétrante. Je n'avais jamais été amoureuse avant lui. Un jour, il me dit qu'il allait émigrer en Argentine. Un grand froid a envahi mon dos et ma nuque. Il ne supportait pas tout ce racisme à son encontre. Les chefs qui lui parlaient comme à un chien. Ils aboyaient les ordres. Les flics qui le contrôlaient sans arrêt. Les autres Algériens qui le traitaient comme un renégat. Je lui ai dit que je voulais partir avec lui. Avec un grand sourire très doux, il m'a alors expliqué qu'il partirait le premier. Dès qu'il aurait une situation stable, un logement décent, bref, un avenir pour deux, il me dirait de le rejoindre. Le temps de faire les papiers m'a semblé horriblement court. Pour une fois, les lenteurs administratives me paraissaient une bénédiction. Noureddine était charmant. On n'a jamais vu un amoureux plus respectueux et attentionné. Je haïssais et j'aimais en même temps ce pays qui allait m'arracher l'homme de ma vie et où j'irais un jour le retrouver. Tous les week-ends, nous nous promenions main dans la main, imperméables à certains regards de travers. Nos nuits, ah nos nuits, j'aurais aimé qu'elles ne cessent jamais. Et puis un jour, il m'a dit que tout était prêt. Les billets d'avion coûtaient à l'époque un prix exorbitant. Il allait prendre le bateau, un cargo. Au pied de la passerelle d'embarquement, il m'a embrassée et promis de donner vite des nouvelles. Le retour en train du Havre à Paris a été un brouillard puant. La solitude et son froid ne connaissaient que la trêve de l'espoir du courrier. Chaque matin, j'espérais une lettre d'Argentine. La lettre qui allait me libérer de cette lourdeur. Heureusement, il y avait mon travail. Ironie du sort, j'apportais chaque jour à des inconnus des missives de leurs proches et rentrée chez moi, je me précipitais vers une boîte aux lettres désertique. Mais je l'aimais ce métier. Je savais que, non loin, et dans peu de temps, un collègue allait m'apporter l'enveloppe avec l'écriture de Noureddine. Noureddine, où était-il pendant ce temps? Il me manquait. J'avais faim de lui. Les années se sont succédées, toutes semblables. Mon attente n'a pas faibli. Ma faim n'a pas été rassasiée. Jamais je ne me suis sentie concernée par la séparation puis la réunification de l'Allemagne. Le mur de Berlin ne m'a pas émue, sa destruction non plus. L'image du président français et du chancelier main dans la main ne m'a pas touchée. Tout cela ne me rendait pas mon père. Personne n'est venu présenter d'excuses aux enfants malmenés par l'histoire. La semaine dernière, mes collègues ont fêté mon départ en retraite. J'avais réussi à prolonger jusqu'à 65 ans, mais l'administration a fini par me rattraper et s'est rappelée à mon bon souvenir, m'autorisant à faire valoir mes droits à la retraite. Tu parles. Pour une fois que je reçois une lettre, c'est pour me fiche dehors. Et toujours pas de courrier d'Argentine. Il a dû m'oublier. Se marier avec une de là-bas. J'ai compris. Il ne m'écrira pas. Je ne recevrai jamais de ses nouvelles. Je ne sers à rien ni à personne. Alors ça suffit. Je me suis acheté 2 bouteilles de champagne, du meilleur, et 1 boîte de somnifères. Je veux qu'on n'accuse personne. Je n'ai plus envie d'attendre. Ma seule peur est de me louper et de me réveiller. Voilà, monsieur. On a retrouvé cette lettre sur la table. Elle a roulé près de l'entrée. C'est moi qui ai donné l'alerte. On pense qu'elle devait être morte depuis un bon mois. Ce qui m'a intriguée, c'est l'accumulation de papier dans la boîte aux lettres. Ça ne lui ressemblait pas. Au début, j'ai cru qu'elle avait fait un petit voyage pour les fêtes, ou pour son départ en retraite. C'est son collègue de la poste qui m'a dit qu'elle venait juste de la prendre. Alors je suis montée, je vous dis pas le spectacle. Et l'odeur, la pauvre. Toujours aimable, souriante, et chaque année un petit billet pour les étrennes. Elle était très vieille France. Si on avait que des locataires comme elle dans l'immeuble, le métier de gardien serait toujours chouette. Ben oui, si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous avez le droit de savoir. C'est vous le nouveau locataire ? Faudra pas croire tous les ragots. La vérité, il n'y a que moi qui puisse vous la dire, puisque j'étais là. Mais faut pas vous inquiéter, on a bien tout nettoyé, nickel, et même on a changé le linoléum. À ce propos, j'arrive au plus terrible de l'histoire. Tenez-vous bien. Quand j'ai voulu changer ce revêtement de sol, il était un peu décollé vers la porte. Eh bien, vous ne devinerez jamais. Juste en dessous, près de la porte d'entrée, il y avait une carte postale et quelques lettres. Postée d'Argentine, fin des années 60, début des années 70. Je les ai lues. Son amoureux lui annonce fièrement qu'il a créé une entreprise de pâte à papier. Puis, il lui raconte que ça tourne bien et qu'il pourra bientôt acheter un logement. Il y en a une où il lui raconte la maison qu'il a trouvée. Il la lui décrit et lui propose de venir l'y rejoindre pour qu'ils soient enfin heureux ensemble. Par la suite, il s'étonne de son silence. Dans la dernière, il pense qu'elle s'est mariée avec un autre. Il lui souhaite d'être heureuse. Vous vous rendez compte ? Tout ce temps, elle a vécu en marchant sur le courrier de son amoureux. C'est un collègue bien intentionné qui lui glissait les lettres sous la porte pour éviter que des gosses ne les chapardent. Ça arrivait de temps en temps. Il ne pouvait pas deviner que le lino était décollé juste à cet endroit. À quoi ça tient ? Si elle avait pu lire la première carte postale, elle y aurait répondu. Il le demandait. Sa vie aurait suivi un autre cours. Le plus surprenant, c'est que quand elle est morte, son corps est tombé juste à l'endroit où il y avait ce courrier. Juste une épaisseur de plastique, vous vous rendez compte ? Allez, monsieur, au revoir. Emménagez bien. Ah, j'allais oublier. Vos clés. Ces 2 petites, c'est pour la boîte aux lettres. Prenez-en soin. Elles sont neuves. Ne les perdez pas. J'ai un passe, mais quand même. Je ne voudrais pas avoir à vous en donner des nouvelles.
Merci Isabelle et merci Jean-François. Cette chronique prendra place dans la rubrique XXL de la plateforme balado-gazette.fr. En fond sonore, c'était Diavolo Schmidt, puis Django Reinhardt. Voilà, Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Edouard, Marie-Sophie, Jean-François et Isabelle. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Et quand vous voudrez, sur balado-gazette.fr, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Et en cas de conflit, je vous promets que vendredi prochain, nous ferons la paix avec tout le monde. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien et à ciao.